Et j'invite à présent donc le docteur Claire Boutelot-Bretonnière, qui est la responsable du Centre Mémoire de Recherche du CHU de Nantes. Bonjour Claire, merci Bonjour. D'être à nouveau cette année notre invitée. Et vous allez donc, je le disais il y a quelques instants, nous présenter deux maladies apparentées, faire un focus d'abord sur celle d'accord de Lévy et puis celle sur la dégénérescence frontotemporelle. Et là aussi, il y aura des questions à poser si vous le souhaitez. Merci.
Merci beaucoup et merci à la Fondation de m'avoir associée une fois de plus à votre belle journée. Merci à vous. Donc j'ai la lourde tâche de parler de maladies apparentées et la liste est très longue. De ce fait, on va faire un focus sur deux maladies, puisqu'on parle beaucoup effectivement de la maladie d'Alzheimer, mais sachant que, on l'a dit, 1 million, etc., etc., c'est la plus connue, mais il y en a d'autres qui sont plus rares, mais pas forcément si rares. Et donc une qui n'est pas si rare et dont on parle finalement assez peu par rapport à la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie à corps de Lévy. Donc la maladie à corps de Lévy, qu'est-ce que c'est ? C'est donc, Bruno Dubois l'a fort bien expliqué, la maladie d'Alzheimer, c'est amyloïde et tau. Et bien là, c'est l'alpha-synucléine, comme dans la maladie de Parkinson, ou une protéine qui fait des petits amas et qui va rendre compte des difficultés que les gens vont rencontrer au quotidien. Et donc dans la maladie de Parkinson, c'est corps de Lévy, ces petits amas d'alpha-synucléine, c'est plutôt au niveau de tout ce qui est la régulation de la motricité, avec la maladie de Parkinson que tout le monde a en tête. Alors que dans la maladie à corps de Lévy, très précocement, ces petits agrégats vont se situer au niveau de la surface du cortex, au niveau des neurones, au niveau de la substance grise, et du coup rendre compte de troubles cognitifs très spécifiques. Donc si on prend quelques points un petit peu clés de cette maladie à corps de Lévy, on considère que c'est la deuxième cause de troubles cognitifs des gens de plus de 60, 65 ans, 70 ans. C'est relativement sous-diagnostiqué, notamment quand on a des présentations plutôt cognitives. Quand il y a un syndrome parkinsonien très clair, c'est assez peu sous-diagnostiqué, bien sûr. Mais par contre, quand il y a peu de Parkinson, c'est peu diagnostiqué. C'est souvent associé, on dit dans certaines études, 40% de gens qui ont une maladie d'Alzheimer ont aussi une atteinte de corps de Lévy quand on regarde leur cerveau. Il y a plus d'hommes que de femmes. L'épidémiologie n'est pas très, très bien connue. Puis il y a des critères. Bruno Dubois nous a parlé de la maladie prodromale. Il a participé, c'est lui qui est à l'origine des critères de maladie d'Alzheimer prodromale. Et bien là, donc, pour toutes les maladies, il y a des critères. Et en l'occurrence, pour la maladie à corps de Lévy, c'est MacKies, avec des critères qui sont assez récents. Et cette maladie à corps de Lévy a des implications thérapeutiques importantes, puisqu'il y a un syndrome parkinsonien. Et que quand on a un syndrome parkinsonien, il y a un certain nombre de médicaments qu'on ne doit pas prendre, sinon ça aggrave les symptômes du Parkinson. Alors, le premier trouble cognitif et qui est vraiment important à avoir en tête par rapport à cette maladie à corps de Lévy, c'est véritablement la prédominance des troubles visuospatiaux, des difficultés visuoconstructives, de repérage dans l'espace. Et donc, on a un certain nombre de tests qui nous permettent de mettre en évidence ça, notamment le test de l'horloge, qui est un test simple. Vous avez des petits exemples de patients qui ont difficulté avec le test de l'horloge. Et l'intérêt de tout ça, c'est que vraiment, ça s'oppose à une mémoire qui est relativement conservée. Par rapport à la maladie d'Alzheimer, où le principal symptôme pour la forme prototypique, c'est des problèmes de mémoire, là, on a vraiment des troubles visuospatiaux au premier plan. Et donc là, on avait dans le service, vous voyez, un patient qui avait tout compris à sa maladie, puisque quand, pour le fameux MMS dont Bruno Dubois a parlé, quand il devait refaire la copie des pentagones, il avait des difficultés. Par contre, il nous avait écrit une phrase, c'était « j'ai de la mémoire ». Il a bien compris qu'il n'avait pas une maladie d'Alzheimer et qu'il avait une maladie à corps de Lévy. Et puis les autres signes qui s'associent donc, à ces troubles cognitifs qui sont vraiment prédominants et précoces, ce sont des fluctuations cognitives. Et ça, je vais détailler juste après avec la diapo suivante. Le deuxième symptôme important sont les hallucinations. Et vous savez encore que dans la maladie d'Alzheimer, on peut voir survenir au cours de la maladie, notamment dans les stades évolués de la maladie, des hallucinations. Mais là, les hallucinations sont vraiment précoces. Elles peuvent vraiment être au moment où on voit la personne pour la première consultation. Alors les gens ne s'en plaignent pas. Parfois même, quand on les interroge, les conjoints, la famille n'est pas au courant, mais très souvent, on a une impression de présence. On voit un petit enfant sur un canapé. Ça peut être un poisson. Dans le service, on a eu un monsieur, récemment, il voyait un poisson rouge dans sa perfusion. Donc c'est vraiment très, très détaillé comme hallucination. Et c'est vraiment un signe caractéristique de cette maladie à corps de Lévy de manière précoce. Et puis, il y a un autre symptôme que ma collègue, professeur Lorraine Leclerc, connaît bien mieux que moi, sont les troubles du comportement sommeil paradoxal. C'est quand on est endormi, qu'on rêve, et bien au lieu d'être paralysé, on est très agité. Donc ça, c'est un signe très, 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 très prédictif et très important par rapport au diagnostic de maladie à corps de Lévy. Et puis enfin, il y a le fameux syndrome parkinsonien, donc qui n'est pas toujours présent de manière très importante au moment où on voit les gens, notamment sur le versant consultation mémoire. Alors je reviendrai sur les fluctuations cognitives, parce que c'est vraiment un signe vraiment très spécifique de la maladie à corps de Lévy. Quand on a une maladie d'Alzheimer, avec l'évolution, on peut avoir des moments de confusion, mais quand on est au moment de la confusion de l'Alzheimer, on va rester confus assez souvent. Là, au tout début, on peut avoir des moments où on est complètement perdu, avec des réponses complètement à côté, et d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, être totalement lucide et parfaitement clair. Et c'est vraiment cette fluctuation qui fait toute la, on va dire, la particularité de cette maladie. Avec des grands épisodes de somnolence, des gens qui peuvent dormir même pendant un bilan neuropsychologique, qui s'endorment dans la salle d'attente, ils s'endorment partout. Pour mener à bien le diagnostic, on a recours à des examens complémentaires. Donc, l'imagerie, c'est le scanner ou l'IRM. L'IRM, on n'en attend pas grand-chose. Vous voyez là, en haut, ça, c'est une imagerie de maladie d'Alzheimer avec les petits hippocampes dont a parlé Bruno Dubois qui sont tout ratatinés, là, qui sont atrophiés. Alors que là, on voit, là, ça, c'est quelqu'un qui a une maladie à corps de Lévy, il n'y a pas d'atrophie. Alors, on peut, bien sûr, avoir une atrophie, un peu diffuse dans une maladie à corps de Lévy, mais globalement, les hippocampes sont plutôt préservés. Et donc, on a recours à des examens pour voir un petit peu comment fonctionne le cerveau. Et notamment, on peut voir, là, on a ce qu'on appelle une tomographie par émission de positons, une scintigraphie, une imagerie fonctionnelle. On injecte un produit qui aime bien le sucre, enfin, qui est sucré, les neurones, pour faire simple. Les neurones captent le produit quand il fonctionne bien. Et là, on voit à l'arrière, donc au niveau des zones occipitales, pariétales ici, occipitales là, on voit qu'il y a un hypofonctionnement, hein, c'est jaune, c'est vert, et que c'est ces zones qui dysfonctionnent dans la maladie à corps de Lévy. Donc quand on a ce type de résultat, on est content, on est vraiment en faveur du diagnostic, et ça permet d'expliquer en partie, hein, pas complètement, mais en partie, les hallucinations précoces, hein, et les difficultés, bien entendu, de repérage dans l'espace, etc. etc. Et puis enfin, pour véritablement mettre en évidence le manque de dopamine, on va faire un examen qui s'appelle un DAT scan, où on injecte un produit qui fixe les petites machines, les petites usines à dopamine du cerveau. Donc là, on est au centre du cerveau. Et donc, on voit là un patient contrôle, là, un patient qui a une maladie d'Alzheimer, donc normal. Et puis là, on voit qu'il en manque. Les petites usines à fabriquer la dopamine sont un peu abîmées. Là, vous avez un autre exemple d'un patient où c'est un petit peu asymétrique et ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'est comme ça qu'on arrive, on aboutit au diagnostic de maladie à corps de Lévy dans les cas où on se pose un petit peu des questions. Parfois, c'est assez simple, les choses sont assez claires. On n'a pas forcément toujours besoin d'avoir recours à tous ces examens. Alors, comment on soigne, comment on traite, hein, le plan d'aide et de soins d'un patient qui présente une maladie à corps de Lévy? Et bien, quand il est gêné au niveau tremblement, au niveau vraiment rigidité, etc., on peut proposer un traitement de la même manière que l'on propose de la dopathérapie à un patient qui a une maladie de Parkinson. On va aussi s'intéresser à tout ce qui est signes non moteurs, donc le sommeil dont nous parlera Lorraine Leclerc-Visionneau, dépression, parce qu'un manque de dopamine, souvent ça donne des syndromes dépressifs assez sévères, ça constipe, etc. Donc c'est important de prendre tous ces symptômes et tous ces signes en charge. Et puis on va s'intéresser à la cognition. Et donc pour traiter la cognition des patients qui ont une pathologie à corps de Lévy, eh bien on se sert beaucoup des traitements anti-Alzheimer, ceux qui ont été déremboursés en 2018, hein, donc les anticholinergiques, donepezil, galantamine, rivastigmine, parce qu'ils ont un vrai effet pour diminuer les hallucinations. Vu qu'ils boostent l'attention, la concentration, on dort moins et du coup on a moins d'hallucinations. En tout cas, c'est un des mécanismes qui est proposé pour expliquer leur très très bonne action. Et puis enfin, si on est trop halluciné et que c'est très très envahissant, à ce moment-là, on peut avoir recours à des neuroleptiques et on fera bien attention parce que les neuroleptiques, ça donne du Parkinson, donc il faudra être très prudent et donner seulement certains médicaments et pas d'autres. Puis enfin, il y a rééducation avec le kiné, la stimulation cognitive. Et puis hein, donc on a cité France Alzheimer, avec qui, bien entendu, on travaille beaucoup. Mais du coup, pour la maladie à corps de Lévy, il y a une association spécifique, hein, qui entoure donc les aidants et les malades de corps de Lévy. Donc là, j'ai mis le petit lien de cette association. Donc voilà pour la maladie à corps de Lévy. Et donc, sans transition, dégénérescence frontotemporale. Donc, les dégénérescences frontotemporales, c'est un vaste sujet, donc on va essayer en 10 minutes de vous brosser une petite cartographie rapide, puisque c'est un très 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 vaste sujet. Les dégénérescences lobaires frontotemporales, c'est un gros groupe de maladies qui comprend donc, qui est en lien avec une altération, hein, du lobe frontal et du lobe temporal, et qui va rendre compte d'un groupe très hétérogène, hein, avec à la fois, vous voyez, les fameuses dégénérescences frontotemporales comportementales dont on va parler, mais également des tauopathies, hein, la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence cortico-basale, toutes ces maladies, hein, qui vous disent pour certains beaucoup, pour d'autres un peu moins, et bien tout ça, ça rentre dans ce grand cadre hétérogène des dégénérescences frontotemporales. Donc nous, on va s'intéresser aux formes cognitives, et notamment à la principale, qui est le variant comportemental de dégénérescence frontotemporale. Donc c'est la principale forme de DFT, parce que dégénérescence frontotemporale, c'est DFT, pour aller vite. La deuxième forme qui est retrouvée, c'est le variant sémantique, donc une atteinte sémantique. Et puis la troisième, dont je vais en parler là tout de suite maintenant, c'est un trouble du langage progressif, très très très, avec une apraxie de la parole. On reste autonome très très longtemps. Et vraiment, c'est uniquement une forme langagière progressive qui évolue sur plusieurs années. Alors, le variant comportemental, l'épidémiologie de cette affaire-là, donc c'est là encore la deuxième cause, mais pour les gens de moins de 65 ans. Hein, donc c'est une pathologie qui touche les gens jeunes, qui touche les gens d'un âge moyen, vous voyez, de 58 ans. Là, c'est 50-55 ans le début. On dit que c'est plutôt rare après 65 ans, mais probablement c'est sous-diagnostiqué. Par rapport à la maladie d'Alzheimer, hein, donc Bruno Dubois disait effectivement forme très rare Alzheimer jeune, des débuts très très jeunes. Là, en l'occurrence, quel que soit l'âge de début, les formes familiales héréditaires de dégénérescence frontotemporale, on arrive à 30-40% des cas. Hein, donc c'est très très important. Hein. Et donc ces dernières années, de nombreuses mutations ont été mises en évidence. Hein, donc les trois principales, c'est C9ORF72, mutation sur la programme unique et mutation sur le gène MAPT. Et donc avec ces trois mutations, on explique un grand, grand nombre de cas de formes familiales de dégénérescence frontotemporale, et il y en a d'autres, comme vous pouvez le voir. Alors, si on s'intéresse maintenant vraiment spécifiquement à la forme comportementale de DFT, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette maladie ? C'est une maladie, donc, on l'a dit, qui touche le lobe frontal. Or, le lobe frontal, vous le savez, votre lobe frontal, c'est un très gros lobe. Hein, donc là, on voit, il est tout ratatiné. C'est ici, c'est pas là. Il est tout ratatiné chez cette personne. Là, c'est l'arrière du cerveau, là, c'est l'avant. Et donc, c'est une atrophie frontale temporale antérieure très marquée. Et donc, votre lobe frontal, qui normalement représente un tiers de la surface de votre cortex, donc vraiment quelque chose d'important, il se charge de réguler votre comportement volontaire et dès que ça sort de la routine. Genre, venir ici cet après-midi, c'est une fois par an, il n'y a pas tout le temps. Voilà, il a fallu par où je passe, à quelle heure je pars, etc. etc. Et donc là, on fait intervenir son lobe frontal. Et donc, ce lobe frontal, il est responsable schématiquement à la fois du contrôle comportemental, motivation, donc le côté véritablement orbitofrontal, hein, c'est comportement social, hein, les convenances sociales, la motivation, la régulation des émotions. Et puis il y a une autre partie, donc là c'est vraiment ici, là. Et puis il y a une partie qui est un peu plus ici, qu'on appelle la partie dorsolatérale, où là on est plus sur planification, raisonnement, abstraction, conceptualisation, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc le frontal, il sert entre autres à ça. Comportement, vraiment, comment je me tiens bien dans les magasins, je passe pas la file d'attente, etc. Et puis, le côté, je sais planifier, raisonner, faire de l'abstraction, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a posé ça, eh bien, les critères diagnostiques de la dégénérescence frontotemporale dans son variant comportemental, les principaux symptômes, c'est des troubles du comportement. Et c'est des personnes qui, insidieusement, progressivement, vont devenir quelqu'un d'autre. Et donc, un des principaux symptômes, c'est la désinhibition. Une désinhibition qui peut être vraiment massive. Hein. C'est des gens qui vont avoir des achats inconsidérés, hein, jusqu'aux commissions de surendettement avec des faillites des majeures. Ça peut être des gens qui vont devenir addicts à des jeux d'argent, mais ça peut aussi être des choses pornographiques avec des conséquences médico-légales importantes. Des gens qui vont avoir des addictions à des drogues, etc. Une désinhibition plus simple, qui est ce que je vous disais, de passer le tour et pas respecter les files d'attente, être grossier, dire des choses un peu désagréables, alors que sans filtre, vous voyez, parfois on pense des choses, mais on ne dit pas. Là, c'est des gens qui disent tout ce qui leur passe par la tête. Et le deuxième symptôme important, c'est l'apathie. Donc c'est totalement antinomique, hein, désinhibition et apathie. Et pour autant, ça peut coexister chez la même personne. Donc l'apathie, hein, la pragmatisme, le fait d'avoir envie de rien, aucune motivation, c'est très fréquent comme symptôme dans les pathologies neurodégénératives, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Maladie d'Alzheimer, l'apathie, c'est très important. Pour autant, les champions du monde de l'apathie, ce sont les patients qui ont une dégénérescence frontotemporale. Là, c'est massif. Ils peuvent passer des heures, des journées entières sur un canapé sans bouger, sauf éventuellement pour aller manger des bonbons, ou parce qu'on va voir, ils mangent aussi des bonbons, mais faire des choses qui vraiment les intéressent, mais ponctuellement pendant 5 minutes, et puis ils retournent sur le canapé. Donc le troisième symptôme comportemental important dans cette maladie, c'est les conduites persévératives. Hein, le fait de faire de manière un peu ritualisée tout le temps les mêmes choses. Et c'est des gens qui vont, alors à un stade un peu évolué, on peut avoir des grincements de dents, des frottements, des choses comme ça, qui peuvent vraiment être un peu invalidantes hein, pour les personnes et pour l'entourage. Et puis, autre symptôme, des gens très indifférents, avec une perte d'empathie, une indifférence affective qui est très très dure à supporter pour l'entourage, hein, vraiment, parce que des gens qui étaient très aimants, qui s'intéressaient à leur famille, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, deviennent totalement indifférents, ça ne les intéresse plus du tout, ils ne posent plus du tout de questions. Donc ça, c'est quelque chose qui rencontre une souffrance importante. Et puis, dans les critères, cinquième symptôme comportemental, l'hyperoralité. Vraiment, des gens qui ne mangeaient pas de bonbons hein, et qui, tout d'un coup, à 55, 60, 65, se mettent à boulotter. J'ai un monsieur qui mange des choupa choups à longueur de journée. Hein, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, des gâteaux, etc. Donc, plutôt une appétence pour le sucré, mais ça peut aussi être pour l'alcool ou pour autre chose, avec une prise de poids de 5, 10, 15, 20 kilos. Hein, c'est pas rare d'avoir des gens qui prennent 20 kilos en un an ou deux, du fait de cette vraiment nécessité de manger des sucreries toute la journée. Et puis, dans le service, on a validé une échelle qui permet d'aider au diagnostic de cette pathologie rare, mais pas si rare, mais qui touche les gens jeunes. Et pour rebondir sur la question de tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ces gens-là, avant, ils étaient en psychiatrie, tout comme les malades d'Alzheimer jeunes. Hein, c'est ce que disait Bruno Dubois. Mais bien sûr, quand on fait les arbres généalogiques, les gens, ils étaient à l'hospice, etc. Ils n'étaient pas traités comme une maladie neurologique, ils étaient traités comme une maladie psychiatrique. Donc là, pour aider au diagnostic et faire la part entre ce qui est de la psychiatrie et ce qui est de la neurologie, on a validé une échelle. Et nous, on a rajouté la négligence précoce. Des gens qui se présentent en consultation sales, avec des vêtements tachés, avec difficultés pour aller à la douche et changer les vêtements, de manière précoce, c'est très évocateur d'une pathologie du patron du cerveau. Au plan cognitif, ces personnes-là, donc elles n'ont pas forcément de difficultés. On peut avoir uniquement des problèmes de comportement, absolument pas de problèmes cognitifs. Quand on en a, c'est finalement, je vous l'ai expliqué, dorsolatéral, planification, abstraction, raisonnement, etc., conceptualisation. Et donc, c'est des gens qui vont pouvoir avoir ce type de problème qu'on va voir arriver au fur et à mesure. Et puis, une chose qu'on va pouvoir aller regarder précocement, pour là encore aider au diagnostic, c'est les troubles de la cognition sociale. Et je m'attarde une petite minute là-dessus. Donc, on parle beaucoup de l'empathie. Il y a Boris Cyrulnik qui a sorti un livre là. On entend beaucoup parler d'empathie, hein, donc cette capacité de ressentir des choses vis-à-vis de ce qui peut arriver à nos concitoyens. Les émotions, hein, ça tout le monde comprend que voilà, on ressent des émotions. Et donc, en l'occurrence, dans cette maladie, c'est complètement émoussé le ressenti des émotions. Et puis, il y a la théorie de l'esprit. Hein, c'est cette capacité qu'on a de penser que quelqu'un pense quelque chose et de s'imaginer ce que la personne pense. Hein. Et bien, tout ça, c'est très altéré précocement dans cette maladie. Et nous, on essaie toujours, hein, et c'est partout bien sûr comme ça, on essaie de vraiment sensibiliser l'entourage à ce trouble, parce que ça explique beaucoup de choses qu'ils vivent au quotidien. Hein, cette souffrance finalement de voir que la personne s'intéresse à rien, s'en fout un peu de tout, hein, mais c'est aussi en lien avec le fait qu'il n'y a plus cette interaction de ressentir les émotions, d'avoir de l'empathie, et c'est cassé, c'est pas, la personne ne fait pas exprès, c'est vraiment qu'elle ne peut plus faire ça. Hein. Alors là encore, hein, on a bien sûr recours à l'imagerie dans cette pathologie, et là on voit une atrophie frontale, hein, donc là c'est le lobe frontal, le patron du cerveau, qui est clairement atrophié, hein. Vous voyez, ici, c'est un beau cerveau, et donc là, on voit qu'il en manque un peu, hein, même beaucoup. Et puis ici, on voit, ça manque de rouge en avant. Là, c'est l'avant du cerveau. Et tout à l'heure, on voyait encore de Lévy, c'était à l'arrière. Et bien là, c'est en avant. Hein, et pour l'anecdote, hein, cette imagerie vient d'une dame que j'ai longtemps suivie, et elle était tout le temps sur son canapé. Et pour qu'elle se lève du canapé, il fallait lui proposer un gâteau. Hein, sinon, elle ne bougeait pas. Hein, pour vous donner un exemple très, très concret. Alors, ces personnes, concernant le plan de soins et d'aide, eh bien, il n'y a pas de traitement hein, curatif. Hein. Pour l'instant, on a vu qu'il n'y a pas de traitement curatif non plus pour la pathologie d'Alzheimer, mais on commence à s'en approcher, et c'est tant mieux. En revanche, et là, en lien avec toutes les avancées sur les découvertes de mutations génétiques, il y a beaucoup d'essais thérapeutiques qui s'attachent à essayer de trouver des thérapie génique, hein, donc des oligonucléotides antisens, des médicaments qui vont aller empêcher la mauvaise action, la mutation, pour empêcher les protéines de s'agréger, pour empêcher la maladie de survenir. Hein, ça va avec le Téléthon, hein, tout le monde a entendu ou vu une fois le Téléthon. Eh bien, donc, le Téléthon, ce sont les thérapies géniques axées sur les mutations, et on est en plein là-dedans avec les dégénérescences frontotemporales. Après, bien sûr, il y a le traitement symptomatique, hein, s'il y a un peu d'irritabilité, d'agressivité. L'orthophonie, quand les gens sont compliants, ce qui n'est pas toujours le cas dans ces pathologies. Et puis ensuite, tout bien entendu, toutes les équipes qui gravitent autour des pathologies neurodégénératives, telles que les équipes spécialisées Alzheimer, les accueils de jour, tous les ateliers, etc., qui se font. Et puis, un soutien aux aidants, qui est capital, qui est vraiment très, très, très important dans cette pathologie. On a fait pas mal de travaux dans le service sur le sujet. La dégénérescence frontotemporale, c'est la pathologie qui retentit le plus au niveau du fardeau des aidants. C'est vraiment, si on la compare à toutes les pathologies neurodégénératives, même des bipolarités, des pathologies psychiatriques un peu lourdes, eh bien, le fardeau est le plus lourd en dégénérescence frontotemporale, du fait qu'on change vraiment de personnalité, qu'on a une autre personne en face de soi. Et donc, il y a là encore, il y a bien entendu France Alzheimer qui œuvre pour cette pathologie, puis il y a une association spécifique qui est France DFT. Et pour finir, je dirais juste cette dernière un mot du variant sémantique. Je vous ai dit, le variant comportemental dont on a parlé, il y a la phasie non fluente dont j'ai parlé en préambule, et puis il y a le variant sémantique. Le variant sémantique, c'est une maladie très rare, mais qui est extrêmement impressionnante et très déroutante. Ce sont des gens qui, progressivement, vont perdre le sens des mots. Donc, ce n'est pas une aphasie où on n'arrive plus à prononcer le mot, où le mot n'arrive plus, il est là, mais on n'arrive pas à le dire. Là, c'est vraiment, on voit plus ce que veut dire le mot. Le mot disparaît petit à petit. Alors, au départ, c'est les mots qu'on n'utilise pas souvent, puis plus ça va, plus ça se rapproche, et plus ça devient tous les mots, jusqu'au mutisme total. Et donc, j'ai coutume de demander aux patients ce que c'est qu'une aubergine. Et donc, là, on voit la perplexité, aubergine. Alors, il y a toujours, souvent, c'est les femmes qui disent « Oui, mais j'en fais pas souvent, j'en cuisine pas souvent. » Enfin, bon, vous en cuisinez pas, mais vous savez ce que c'est qu'une aubergine. Donc, voilà, la perte du concept, la perte du sens du mot, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et puis, là, vous voyez, pour la représentation d'une poule, donc j'ai demandé au monsieur qui avait des poules chez lui de dessiner une poule. Donc il avait des poules. Il m'a dessiné quelque chose qui ressemble quand même plutôt pas mal à une poule. Et quand je lui ai demandé un éléphant, j'ai une sorte de grosse poule dinosaure. Et puis le kangourou ressemblait aussi beaucoup, beaucoup à la fameuse poule. Et donc vraiment, parce qu'il ne voyait pas. Il ne voyait pas du tout à quoi ressemblait un éléphant. Il ne voyait pas du tout à quoi ressemblait un kangourou. Alors après, on peut pas forcément bien dessiner. Mais là, il ne voyait plus du tout à quoi ça ressemblait. Donc cette maladie très très particulière et finalement pas si rare. C'est ce qu'on appelait avant la démence sémantique, mais on essaye tous de virer ce mot démence qui est quand même pas très joli et qui recouvre pas vraiment la réalité de ce que vivent les gens, notamment quand on fait des diagnostics à des gens à des stades très débutants. Et puis parallèlement à ça, on a, puisque c'est une pathologie temporale dans le cas des frontotemporales, des troubles du comportement qui sont assez importants avec une rigidité, un côté très égocentré. Vraiment une pathologie extrêmement troublante. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces deux pathologies au pas de charge et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Claire. J'imagine que là encore il va y avoir beaucoup de questions. N'hésitez pas à lever la main, il y a un micro qui va passer dans la salle.
Quand vous décriviez les symptômes, moi ça me faisait écho à des symptômes de bipolarité ou de maladie psychiatrique. Donc comment on fait la distinction? Parce qu'on sent qu'il y a vraiment des zones de superposition entre les maladies neurologiques et les maladies psychiatriques. Et comment, du coup, on...
Vous avez raison, c'est une excellente question. Il y a des groupes de travail internationaux qui planchent sur le sujet. Donc on ne va pas tout résoudre aujourd'hui. Et vous avez fortement raison. En fait, on estime qu'il y a 55% des patients qui ont une DFT qui sont d'abord vus par des psychiatres et qui ont un diagnostic psychiatrique. Donc il y a une errance diagnostique importante parce que c'est très dur de faire la part des choses. Je vous donne un exemple tout bête récent. Une dame qui avait une addiction à des vidéos un peu limites, qui a été vue en addicto, qui a été considérée comme ayant une addiction, qui a été traitée pour ça, qui a été revue, qui a dit qu'elle avait arrêté, etc. Et puis elle nous arrive chez nous un petit peu après, et en fait, voilà, elle n'a plus de lobe frontal. Mais au départ, ça ressemble beaucoup, il n'y avait que ça, ça ressemblait beaucoup à une addiction. Et inversement, vous avez raison, la bipolarité, c'est un gros diagnostic différentiel. Parce que les gens, quand ils sont en accès maniaque, ils font tout ce que j'ai décrit là. Sauf qu'à un moment donné, ça s'arrête et ça répond au traitement, généralement, quand même. Il y a un côté cyclique, en fait. Et du coup, ça répond au traitement. Et on a notamment en cognition sociale. La cognition sociale est beaucoup moins altérée. Ce côté d'inférer des pensées aux autres. Au moment où on est très dépressif, on est en dessous, on ne s'intéresse à rien. Mais quand on teste, en fait, les gens reconnaissent les émotions quand même. Ouais. Donc on a des moyens Mais dans certains cas, ça reste très très compliqué.
Bonjour madame. Je voudrais savoir comment accompagner quelqu'un qui visiblement présente des symptômes, mais qui est dans le déni. Comment l'amener à consulter ?
C'est une très bonne question. Je pense que vraiment, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Après, là, du coup, c'est vraiment truc et astuce. Hein, quand vraiment la personne est dans le déni ou bien dans l'anosognosie. Hein, parce que, vous voyez, le déni, c'est psychiatriquement, on veut se protéger. L'anosognosie, c'est un terme plus neurologique où on n'a pas conscience de ces troubles. Et du coup, on ne voit pas du tout où est le problème et pourquoi on irait consulter. Alors, si c'est du déni, on peut essayer de travailler sur ce déni en disant, voilà, quand même, ce serait bien de faire quelque chose et d'essayer de faire évoluer la personne dans la prise de conscience de ses difficultés. Si c'est une anosognosie, on n'y peut rien. Donc, dans ces cas-là, il faut contourner l'obstacle. Et alors, après, là, c'est vraiment c'est des expériences, hein, les patients qui, leur famille qui viennent passer des tests pour eux-mêmes, pour venir avec la personne, pour que comme ça, on ait une première consultation. Après, il faut être inventif. Parce que face à une anosognosie, on ne peut rien. Il faut vraiment réussir à amener la personne. Alors, ce qu'on fait parfois, c'est quand vraiment ça devient compliqué et que la personne n'est vraiment pas à venir, on propose un hôpital de jour, mais plutôt versé sur contrôle du cœur, etc. Et au travers de ces petits contrôles cœur et autres, eh ben on en profite pour faire une petite évaluation cognitive et c'est comme ça qu'on met le pied un petit peu dans la porte de la mémoire. Voilà. Mais c'est vraiment du plan B, vous voyez hein. De la débrouille.
Bonjour. Quelle est l'espérance de vie d'une démence à corps de Lévy et d'une DFT environ, à partir du moment où le diagnostic.
Alors vous avez vu, moi j'ai pas dit démence, hein, maladie à corps de Lévy.
Pardon.
Hein. Je vous en prie, hein, mais vous êtes tout le monde dit ça. Hein, mais moi j'insiste sur la maladie parce que justement les fluctuations font qu'on a des gens qui à un certain moment sont d'une telle lucidité que vraiment les considérer comme des déments, c'est vraiment leur faire offense. Et moi, je tiens beaucoup à enlever ce mot dément, d'ailleurs, c'est maladie à corps de Lévy et dégénérescence frontotemporale que j'ai employé. Du coup, l'espérance de vie, en fait, ça ne veut rien dire pour ces pathologies parce que, véritablement, on fait des diagnostics de plus en plus précoces. Et donc, les séries... Écoutez, lundi, j'ai eu des gens qui sont venus, qui avaient un diagnostic de maladie à corps de Lévy, le monsieur, une maladie à corps de Lévy, et ils ont vu quelqu'un qui était quelqu'un qui est dans le cercle paramédical, qui a dit « Oh là là, c'est terrible comme maladie, 7 ans. » Parce que ce qui est plutôt dit, c'est que c'est plus court, une évolution plus courte que la maladie d'Alzheimer. Et en fait, c'est très variable, parce que ça dépend vraiment de l'importance de justement des agrégats de synucléine, des corps de Lévy. Et donc, c'est assez variable. Alors, bien sûr, il y a des grosses études, des grosses séries qui ont montré qu'à peu près, on était à 10 ans, etc. Mais à l'échelon individuel, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, d'expérience, ce n'est pas forcément une maladie qui évolue plus vite quand il débute par du cognitif. Hein. Et peut-être que Lorraine Leclerc-Vizounot, elle n'a pas la même... Ma collègue qui les voit sur un angle un petit peu plus parc, d'une certaine manière, peut-être pas la même vision. Mais nous qui les voyons sur un plan cognitif, il y a des gens qui évoluent très tranquillement. Hein. C'est très variable. Et pour la dégénérescence frontotemporale, même réponse. Parce qu'en fait, c'est tellement hétérogène, il y a tellement de protéines qui dysfonctionnent, tellement de mutations différentes, qu'on a, là pour le coup, c'est pas une maladie comme la maladie d'Alzheimer, mais des tas de maladies différentes. Et donc, c'est impossible pour un individu de lui donner une fourchette.
Merci beaucoup. Dernière question.
Bonjour, moi je suis de la maison des aidants et on accompagne beaucoup les aidants et on s'aperçoit que, je me demandais s'il y avait des recherches autour de l'accompagnement des symptômes et des traitements des symptômes, notamment de l'agressivité qu'il peut y avoir chez certains malades. Et on voit que les traitements qui peuvent être donnés ont tendance à rendre les malades très apathiques ou parfois sans... Et c'est un peu une difficulté pour les aidants à administrer ce traitement parce qu'ils savent que derrière ils vont être un peu groggy et que c'est parfois un frein à ce recours et qu'il y a malgré tout de l'agressivité qui s'installe dans la relation.
Ouais, c'est l'éternel problème. On en discutait avec Mme Noël dans la salle qui est l'infirmière de pratique avancée du centre mémoire. Elle a vu quelqu'un ce matin qui tape sa femme, mais il y a eu un médicament qui a été donné par d'autres que nous pour essayer de diminuer ça, mais comme elle trouvait trop apathique, elle a diminué et du coup il la frappe. C'est compliqué. Pour l'instant, effectivement, au niveau des molécules qu'on a à disposition, sachant qu'elles s'intéressent à des cerveaux fragilisés, Donc, imaginez, les médicaments, tout ce qui est neuroleptiques, psychotropes, qui tentent de diminuer les troubles du comportement, ils sont globalement faits, normalement, pour des patients psychiatriques qui ont un cerveau en bon état, au niveau morphologique. Là, on a des cerveaux fragilisés, donc c'est vrai que les effets indésirables, elles sont c'est un peu de la mayonnaise, hein, quand on le donne, on ne sait jamais si on va dépasser notre objectif ou pas. Donc moi je dis toujours, c'est de la mayonnaise, il faut que ça prenne, parfois on en met trop, on ne met pas assez, donc on revient en arrière, et hélas, on n'a pas pour l'instant de médicaments, vous avez raison, qui permettent vraiment de cibler uniquement le comportement et sans effets collatéraux de type sédation. Puisque normalement, quand on donne des psychotropes pour diminuer le comportement, on veut sédater un peu les gens.
Merci beaucoup, Claire, et on peut à nouveau l'applaudir.